Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Peut-être que ça s'est pas entendu. Bonjour à tous. Coopérative et logiciel libre. Un exemple avec Coopanam, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme un retour d'expérience de la conférence Mixit et aussi la chronique de G sur Mickey dans le domaine public. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours en nous posant toutes questions. Nous sommes mardi 7 mai 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Magali Garnero. Salut Magali.
Salut Isa.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par un retour d'expérience sous la conférence Mixit qui a eu lieu les 25 et 26 avril à Lyon. C'est Laurent Costi qui animera l'échange. C'est qui ton invité, Laurent ?
Alors, mon invité, c'est Isabelle Avani, je crois.
Bonjour.
Bonjour, Isabella. Oh, quelle préparation. Écoute, ça tombe très bien que tu sois là parce que je souhaitais que tu me racontes Mixit. Alors, c'est quoi Mixit ?
Donc, Mixit est une conférence qui a lieu à Lyon depuis 2011. Donc, fin avril 2024, les 25 et 26, il y a eu la 13e édition. Et c'est une conférence qui se présente comme une conférence pour l'éthique et la diversité dans la tech avec des crêpes et du cœur. Comme vous l'entendez, il y a le mot tech dedans, mais il y a aussi éthique, diversité, crêpe, cœur. En gros, ce n'est pas qu'une conférence sur la tech et sur l'informatique, mais une conférence pas qu'est de conférences techniques, en fait, mais des intervenantes et intervenants divers et variés et des sujets aussi très variés qui peuvent être la diversité, l'inclusion, l'aide infligée, la richesse apportée par les personnes reconverties, introverties, néo-atypiques, typique, etc. Il y a plusieurs catégories, en fait. Il y a une catégorie vraiment qui s'appelle tech, et là, on va vraiment sur les sujets techniques. J'ai vu se passer cette année, par exemple, des choses sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle. Et après, il y a une catégorie plutôt sur le management, c'est-à-dire comment faire des belles choses ensemble dans la tech. Après, il y a une catégorie un peu plus sur l'éthique dans la tech et comment la mettre en pratique. Et après, il y a la catégorie aliens, donc des choses qui n'ont apparemment rien à voir avec la technique. Donc, il y en a pour tous les goûts.
C'était ouvert, Alien ? La salle était toute ouverte ? Pour accueillir les aliens. Bon. Pourquoi alors
bah, c'est la diversité et l'inclusivité. Donc, je pense qu'il y avait oui
du vert
pour l'alien aussi.
Alors, pourquoi tu y étais en tant qu'April, dis-moi donc.
Alors, déjà parce que j'ai eu la possibilité d'intervenir au nom de l'April sur la web TV de Mixit, qui s'appelle Mixit On Air. En effet, il y a les conférences et les ateliers qui sont organisés sur place et qui sont les conférences. Notamment seront disponibles en ligne aussi sur le site sous peu. Mais il y a aussi une web télé qui permet d'interviewer des personnes qui participent, qui animent les conférences, qui proposent des conférences. Et ça permet de le connaître un peu plus. Ou dans notre cas, ça permet aussi de rattraper des personnes qui n'ont pas pu obtenir un créneau pour leur conférence parce qu'à la base, en fait, nous avions soumis avec mon collègue Fred Couchet, on avait soumis une conférence sur les actions que l'April mène depuis quelques années pour rendre l'association plus inclusive, notamment pour ce qui est la diversité de genre. Et on s'est vu refuser malheureusement notre proposition, mais l'équipe d'organisation nous a assuré, c'est pas que les sujets ne les intéressaient pas, c'est qu'il y avait eu énormément en fait de propositions, mais puisqu'ils aiment bien l'April, bah ils ont réussi de quelque façon à nous faire intervenir et on était ravis. Donc j'étais allée déjà pour être interviewée avec Pierre-Yves Gosset de Framasoft dans le cadre d'une interview autour des logiciels libres. Et donc j'ai pu présenter un peu l'April, ce que nous faisons, la différence entre logiciel libre et les termes logiciel libre et open source. et aussi parler un petit peu des actions, hein. Je disais tout à l'heure qu'on mène, même si j'ai pas pu être exhaustif parce qu'on avait 25 minutes, on était deux personnes interviewées, deux personnes à interviewer, donc je fais ce que j'ai pu, mais on était ravis d'être là. Et puis j'étais là aussi pour suivre bien sûr les conférences.
Oui, alors à quelle conférence et à quel atelier t'as assisté ? T'en as un petit peu parlé, hein. T'as ouais. Un peu parlé de tout ce qui pouvait y avoir, mais du coup, quels sont ceux qui t'ont marqué ?
Donc, moi, j'ai participé. Donc, pour ce qui concerne les conférences, j'ai suivi tous les ce qu'on appelle les keynotes, c'est-à-dire les conférences plénières, c'est-à-dire des conférences pendant lesquelles il n'y a pas d'autres activités proposées en parallèle, ce qui ça veut dire que tout le public en fait est là, tout le monde est là, donc c'est des conférences qui sont mises particulièrement en valeur. Et après j'ai fait le choix de ne pas suivre d'autres conférences, mais de participer à des ateliers qui ont été proposés, et ce qui est un choix assez radical parce qu'un atelier dure 2 heures, une conférence 1 heure. Donc ça veut dire que si on participe à 3 ateliers comme j'ai fait, on n'a pas la possibilité de suivre pas grand chose d'autre. Mais j'étais ravie de suivre les ateliers. Donc il y en a, j'en ai suivi un premier qui était sur la neurodiversité. Et donc ça a permis de travailler en groupe. C'est pour ça aussi que j'ai participé aux ateliers, parce que pour moi c'est une façon d'interagir avec d'autres personnes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les événements de ce type. Ça permet de travailler ensemble, c'est une autre chose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on apprend énormément aussi des autres. Donc on a exploré, on a été 5 groupes de travail, on a exploré chacun une neurodiversité, comme ça pouvait être la dyslexie, ça pouvait être l'autre potentiel intellectuel, je me souviens plus comment ça s'appelle.
Potentiel intellectuel,
oui, HPI, voilà. Ouais. L'objectif c'était de voir comment mieux inclure ces personnes, les rendre plus à l'aise. Et comment aussi les mettre en valeur ? Parce que la neurodiversité, c'est des conditions atypiques, donc il faut trouver des adaptations souvent. Mais elles ont des incroyables talents et atouts, et donc aussi oui, comment les mettre en valeur.
Sans doute une grande difficulté, c'est d'appréhender ce qu'ils vivent quand ils sont dans un groupe, quand ils sont confrontés.
Tout à
ce qu'on vit normalement entre guillemets. Quoi.
Tout à fait. Donc dans notre groupe, il y avait une personne neuroatypique qui nous a donné effectivement plein de pistes. C'était super d'avoir son témoignage. Donc c'est ça, le premier atelier. Après j'ai suivi un atelier sur comment mieux inclure les personnes trans, et là aussi ça avait vraiment rien à voir avec l'informatique là pour le coup, parce que au niveau de mon groupe de travail, on analysait, on essayait de se mettre dans la peau d'une personne trans et ce qu'elle pouvait avoir comme difficultés dans son parcours d'accès aux soins, à partir de comment prendre un rendez-vous, comment trouver un médecin qui soit formé, les situations vécues dans une salle d'attente, même dans le cabinet d'un médecin, dans une pharmacie, donc des choses très, on va dire très banales, mais qui peuvent être source de souffrance si les personnes ne sont pas suffisamment sensibilisées, formées pour accueillir, donc très intéressant. Et puis le troisième atelier, c'était dans la catégorie Aliens, c'était un atelier sur l'écriture inclusive.
D'accord, ah oui. Et ça porte à débat en général.
Ça porte à débat, mais là on était toutes et tous d'accord. Et j'étais contente de voir que je m'y connaissais pas mal, mais c'était bien évidemment une occasion pour en apprendre encore plus. Et lors du deuxième atelier, je voulais te dire qu'il y avait une personne sourde dans notre groupe de travail. Et je discutais avec beaucoup de personnes sourdes au cours de la conférence. Il y avait aussi beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Voilà, c'était génial. Il y avait beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, c'était génial.
Bon, donc tu recommandes de s'y rendre, d'aller découvrir.
Alors, je recommande. Après, c'est pas si simple parce qu'en fait, pour être vraiment inclusive jusqu'au bout, bah déjà il y a un code de conduite qui est annoncé au début de chaque journée. Mais pour être vraiment inclusive, pour pouvoir acheter un billet, il faut d'abord gagner une loterie. Parce que sinon, pourquoi ? Parce que sinon, dès qu'ils ouvrent une billetterie, c'est le premier arrivé qui a la possibilité d'acheter le billet, c'est pas juste. Voilà, donc pour être vraiment inclusive, ils ont poussé jusqu'au bout le concept et donc j'ai eu la chance de pouvoir gagner mon billet dès la première fois que j'ai tenté.
Et c'est aussi une loterie pour pouvoir présenter sa conférence, alors du coup, vous avez pas été retenu.
Non.
On n'a pas été retenu à la prix.
Deuxième degré, toujours sur deuxième degré, il faut faire attention avec l'or. Mais je crois me rappeler que si une personne n'arrive pas à acheter son billet malgré la loterie pendant 3 années d'affilée, soit on lui offre le billet, soit on lui donne quand même l'opportunité de l'acheter parce qu'ils se disent, c'est pas possible, là vraiment, pas de chance. Bon, donc on fait en sorte que tu puisses participer. Donc c'est vraiment accès, inclusivité à fond. Et si tu voulais poser une dernière question, je pense.
Non, je n'en ai pas d'autres.
moi, ce que je voulais dire, c'est que, comme je disais, le code de conduite est vraiment posé dès le départ. C'est très clair. Aucun type de discrimination, aucun harcèlement seront tolérés. Il y a des personnes qui sont formées aussi pour recueillir la parole en cas de harcèlement, violence sexiste et sexuelle. Il y a la transcription dans les grandes affiches. Voilà, et j'aime beaucoup les deux règles qui ont été posées pour les interventions après une conférence. La première règle est que la première phrase est une question, et la deuxième règle c'est que la deuxième phrase n'existe pas. Et donc ça, moi j'ai adoré parce que ça permet en fait à plusieurs personnes de poser éventuellement des questions et de ne pas occuper la parole inutilement quoi.
Ok.
Voilà, donc oui, je vous recommande de tenter absolument de gagner un billet, de gagner la possibilité d'acheter un billet pour la prochaine édition. Et bientôt, les vidéos seront disponibles sur le site de Mixit.
Eh bien, merci Isabella. Je vais te repasser la parole du coup.
Oui, tu repasses la parole à Isabella, animatrice, qui vous annonce que nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, comme on a annoncé, nous entendrons le sujet principal d'aujourd'hui sur Copanam. Et ça, Laurent Costi, en fait, a animé le sujet. Pour l'instant, nous allons écouter Little par Radio Déserte. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Little par Radio Déserte, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur coopératives et logiciels libres, un exemple avec Copanam. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Ce sujet est animé par Laurent Costi. Avec lui sur le plateau aujourd'hui, trois personnes de l'équipe de Copanam. Laurent, je te laisse la parole.
Merci Isabella. Alors, je vais laisser tout à l'heure les gens se présenter. Merci Isabella. Je vais laisser les gens se présenter tout à l'heure. Donc, pour introduire le sujet, je dirais que longtemps et encore maintenant, l'April finalement interroge le lien entre logiciels libres et éducation populaire. Donc, si des actions étaient beaucoup focalisées finalement sur le monde associatif, faudrait pas qu'on oublie le monde des coopératives, parce que finalement, il y a un lien étroit aussi qui est d'abord entretenu avec l'éducation populaire. Et puis, on va le voir avec Copanam tout à l'heure. La question du logiciel libre, en tout cas pour Copanam, elle est centrale. Voilà, certaines coopératives ont besoin d'être dans la maîtrise de leur système d'information, et donc le logiciel libre, c'est un choix assumé pour aboutir à ça. Donc, nos trois invités, Marine Monnier-Baron, qui va se présenter, je vais lui laisser la parole, Vincent Lucie et Nicolas Duclos, ils vont nous expliquer alors ce qu'ils font à Copanam aujourd'hui, et puis surtout comment ils sont arrivés là, parce que c'est toujours intéressant de regarder aussi les parcours. Marine, je te laisse la parole pour commencer.
Bonjour. Donc, voilà, moi, mon parcours, il est varié. J'ai d'abord été ingénieur agro. Et finalement, je ne voulais pas bosser dans l'industrie agroalimentaire, donc il a fallu changer. Je suis devenue professeure des écoles, passionnée, mais à la fin, j'étais un petit peu fatiguée de lutter contre la destruction du système éducatif, donc il a fallu changer. Ça tombait bien, j'ai des amis qui montaient une société prenant les vins nature sur Paris, et là, je me suis jetée à l'eau. Je suis devenue développeuse en me formant à partir de rien. Du zéro, du site du zéro.
Auto-formation.
Complètement. Merci de libre. Après grosse période d'alternance, chômage, période active. Et pendant toutes les périodes de chômage, c'était des grosses périodes de formation, finalement, très intenses. Donc, j'ai été salariée d'une SS2I. J'ai été étudiante à 42. Si, j'ai osé faire ça. une expérience en elle-même. Et puis, j'ai été développeuse indépendante. Et en 2020, lors d'une manif pour préserver nos retraites, il y a un gars qui m'a dit que ce n'était pas possible d'être développeuse indépendante, auto-entrepreneur à mon âge. Ce n'est pas raisonnable. Sans couverture sociale, c'est un peu compliqué, c'est très compliqué de vivre. Et il connaissait Copanam. Et donc, il m'a laissé aller voir. Et j'ai intégré la structure en 2020. D'abord comme entrepreneureuse salariée, enfin heureuse, et puis petit à petit, j'ai intégré l'équipe informatique. Donc je suis maintenant salariée du pôle informatique, et j'ai envie de dire qu'à 50 ans, j'ai trouvé la structure qui me permet d'aller métier et conviction. La route est très longue, mais elle est riche, et aujourd'hui je suis vraiment ravie de... d'être développeuse dans ce cadre-là et de permettre à plein de gens d'exercer leur profession de manière intéressante et sécurisée et ensemble et tout ça et tout ça. Voilà.
Super. En tout cas, beau parcours. Et puis en plus, on démontre que les manifestations, ça peut servir à quelque chose.
Exactement.
Bon, exactement. Merci Marine. Je vais passer la parole à Vincent.
Ouais, bonjour. Alors moi, je suis arrivé en 2010 dans la coopérative, et donc ça fait un petit moment maintenant, après une grande rupture professionnelle. Donc de base, j'étais plutôt admin 6 et formateur exclusivement sur les logiciels libres. Donc, moi, j'ai déjà 48 ans quand même. Et je me suis arrêté de travailler longtemps après avoir travaillé dans l'édition pour faire des sciences humaines, en fait, mais vraiment à l'université. Je suis retourné sur les bancs de l'université. Et puis après, bah, j'avais plus de sous parce que c'était quand même grâce au chômage que j'ai pu faire ces vraies études. Et donc du coup, je suis, après quelques péripéties, arrivé chez Copadam, où là, bah, j'ai en fait participé, c'est assez marrant, en 2010-2011, au déménagement de Copadam dans les locaux actuels, et puis bien sympathisé avec une équipe de jeunes gens très talentueux qui s'appelaient Liazo à l'époque, qui maintenant sont devenus Yellow, qui est le troisième fournisseur de fibre optique pour les pros en France. Et voilà, et ensuite je me suis un petit peu éloigné de la coopérative parce que j'ai élevé un enfant. Bon, c'est des ruptures de vie comme ça, je pouvais pas trop être entrepreneur en même temps. Et là, j'ai travaillé avec Nicolas pas mal de temps chez ATD Carmonde pendant une dizaine d'années. Et enfin, en 2020, après moult péripéties dans le secteur associatif qui a beaucoup souffert des réformes fiscales. J'étais rappelé par la co-direction de Copanam pour régler des problèmes dans la coopérative, des problèmes informatiques. Et petit à petit, je suis revenu dans l'équipe interne avec des gens qui en sont plus ou moins partis maintenant, mais grâce, je vais vraiment leur rendre hommage. Donc Axel Viala, Élie Gavotti, Adrien Pellissier, Adrien est encore là, Axel est toujours là maintenant. Et avec eux, on a réinternalisé en fait les services informatiques de Copanam. Et ensuite sont arrivés, Manu était déjà là, Emmanuel et Alexandre. Voilà. Et ensuite Marine, et ensuite Nicolas est revenu. Enfin, bref.
Merci pour cette présentation rapide. On va parler Copanam, hein. On va expliquer après ce que c'est, mais d'abord Nicolas.
Oui. Alors moi, j'ai un profil un peu atypique parce que je suis à la fois informaticien et psychopraticien, et je partage un peu mon temps entre les professionnel entre ces deux activités. Pour ce qui concerne Copanam, je suis entré en 2020 à Copanam en tant qu'entrepreneur. Après avoir passé 10 ans avec ATD Carmonde, où j'ai connu Vincent notamment, avec l'idée de rentrer à Copanam avec une activité d'entrepreneur dans l'informatique pour outiller les structures de l'ESS en logiciel libre. J'ai expérimenté ça pendant un an ou deux. J'ai fait un petit passage dans une autre coopérative du logiciel libre qui s'appelle 24e.
D'accord.
Et Vincent m'a contacté parce qu'il y avait besoin de renfort dans l'équipe informatique. Et je suis revenu à Copanam en septembre 2023 pour renforcer l'équipe informatique, en particulier. En particulier sur tout ce qui concerne le web, l'outillage web, les outils de formation, site web, etc. Voilà, grosso modo.
C'est déjà des très très beaux parcours, c'est intéressant, hein, toute cette diversité, les structures par lesquelles vous êtes passé, enfin, je trouve ça extrêmement riche, extrêmement intéressant. Enfin, voilà, ça caractérise aussi, je trouve, les gens qui s'occupent du système d'information à Copanam. Mais on va peut-être quand même essayer d'expliquer ce qu'est Copanam, ce qu'est une coopérative, parce que finalement, on en entend parler, mais on ne sait pas trop bien ce que c'est. Pourquoi Copanam, comment ça marche? Donc, Marine?
Notre coopérative, elle est née en 2004. Elle est issue du mouvement des coopératives d'activité et d'emploi. Ça s'appelle des CAE, coopératives d'activité et d'emploi. Copanam a décidé dès le départ cette solution comme un outil pour penser un autre rapport au travail et à l'entreprise, avec notamment l'objectif de dépasser d'abord le salariat subordonné et de l'auto-entrepreneuriat. Donc, comment travailler en dépassant ces deux contraintes.
Je veux bien que tu t'approches du micro, excuse-moi Marie. Oui.
Une coopérative d'activité et d'emploi, c'est une structure de test grandeur nature d'un projet individuel. Quand on entre dans une CAE, on est un entrepreneur à l'essai, ça permet de tester une activité. On signe un contrat avec la CAE et on devient salarié pendant une période de test. Une période, on appelle ça le cap, mais bon. La CAE s'occupe des tâches administratives et personnellement, on peut se consacrer du coup uniquement au développement de son activité. Chez Copanam, comme dans toutes les autres CAE, c'est le principe, on accueille des personnes et des projets économiques et on mutualise deux choses. Un outil de travail en commun, c'est la coopérative et un ensemble de services. L'ensemble de services, ça va être la comptabilité, un service juridique, les affaires sociales, les outils informatiques. Et ça se distingue, ces services, de l'outil de travail en commun, qui est aussi quelque chose de fondamental. Au niveau des métiers qu'on trouve dans la coopérative, c'est très varié. On trouve des rédactrices, des jardinières, des formatrices, beaucoup de gens de l'éducation populaire, évidemment des informaticiennes, mais plein d'autres métiers aussi. Je pense des gens qui font de la restauration, enfin toute activité peut trouver sa place. On a aussi à Copanam une activité de service à la personne voilà, qui s'appelle coopératif. Et au fil de notre histoire, au fil de l'histoire, notre coopérative a construit petit à petit le projet d'une mutuelle de travail associée. Copanam, s'observe et s'imagine comme une société de personnes dans laquelle des membres protègent mutuellement leur parcours professionnel et leur capacité à pouvoir vivre décemment d'activités qu'elles ont choisies en entremêlant des mécanismes d'apprentissage mutuel, du salariat mutuel, de la formation mutuelle, du secours. Et voilà, donc ensemble, on permet à tout un chacun de produire une activité économique viable. Voilà, en gros.
Merci. Alors, j'avais deux questions. Enfin, ça appelait deux questions. Il y a, alors, comment on fait pour que des jardiniers parlent à des informaticiens? C'est pas des objets qui sont forcément évidents à joindre. Quel rôle Copanam a pour que les gens puissent se parler? À quel moment ils se rencontrent? À quel moment, finalement, ils ont envie de se parler? Parce que finalement, ils ont envie de se parler à certains moments.
Il y a plein de moments collectifs, toute la vie démocratique à Copanam se passe par plein les AG, les assemblées générales, etc., qui vont donner tout ce temps commun où ensemble on va construire. Et par rapport à nos outils informatiques, c'est assez chouette d'avoir en face de soi les gens qui ont le réel besoin, enfin d'écouter leurs besoins et de pouvoir développer des choses réellement pour eux, et on va les croiser pendant la période de...
Vas-y Vincent, n'hésite pas à intervenir, je t'en prie. Ouais.
On a oublié un petit truc, c'est qu'à Copanam, on est 500 personnes.
Ça faisait partie c'était ma deuxième question.
On est quand même 500, donc c'est difficile d'avoir tout le monde en même temps, au même endroit et au même moment. Mais pour autant, en fait, on a 4 moments forts dans l'année. On a 2 assemblées générales, une en juin, une en décembre, et on a 2 universités qu'on appelle comme ça, une université d'automne et une université de printemps. Donc là, c'est vraiment des événements en présentiel assez importants. On peut réunir 200-300 personnes. Donc sur 500, il n'y a pas tout le monde. Mais bon, ça fait déjà pas mal de taf. Et quand même, il y a du brassage, en fait. Il y a quand même pas mal de brassage.
Peut-être que ce que j'ajouterais, c'est que il y a aussi, quand on entre à Copanam, il y a tout un processus d'accompagnement. Et on est des groupes de personnes avec des métiers différents. Donc déjà, on voit...
Je suis bien placé pour le savoir.
On voit différents métiers déjà. Et c'est déjà intéressant de voir, quand on entre à Copanam, toute la diversité des métiers qui existent. Et après, je pense que ce qui nous rassemble, c'est pas tant nos métiers, mais c'est plutôt ce qui fait qu'on arrive à Copanam, quoi. C'est notre idée de la démocratie, du faire ensemble et des choses comme ça.
Merci. Cette description à trois voix était extrêmement intéressante. Alors, on pourrait aussi dire que les outils numériques sont en appui derrière justement ces rencontres physiques qui sont les plus importantes, hein, soyons clairs. Mais ça vient appuyer justement ça. Alors, pourquoi tout faire pour tendre vers un système d'information utilisant un maximum de logiciels libres à Copanam? Qui veut répondre?
Ouais, bah je peux y aller. En fait, alors du coup, nous, notre système d'information, comme on dit, c'est assez abstrait, mais grosso modo, le cœur de notre informatique, il est lié directement à notre secteur professionnel de mutualisation d'activités économiques. Comment on mutualise des activités économiques? À travers un système comptable très performant dans notre cas, multi-analytique extrêmement fort, et donc on a créé notre propre logiciel comptable. Et ce propre logiciel comptable, si on est dans un logiciel propriétaire, il est comptabilisé et très payant pour tous les utilisateurs du dit logiciel comptable. Donc ça ferait des licences pour 500 personnes. Donc en fait, de base, on a un intérêt économique à utiliser vers un logiciel libre pour s'affranchir d'une licence par utilisateur.
Donc au-delà de la question des valeurs, il y a aussi évidemment une question financière, quoi.
Oui, qui est aussi une question démocratique, parce que si tout est cher, rien n'est accessible.
C'est vrai. des commentaires, vas-y, je t'en prie.
Après, je dirais, quand j'ai lu la question la première fois, je l'ai pas lu comme ça. Je l'ai lu comme, c'est quoi l'intérêt d'avoir du logiciel libre dans Copanam ? Parce que, en fait, finalement, je trouve qu'il y a quelque chose de commun entre le logiciel libre et Copanam. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que nous, on est à Copanam. C'est parce qu'on est d'abord sensibilisé au logiciel libre, souvent. Et puis, et du coup, on a une idée politique, philosophique, enfin, une conception de la société, de comment on est ensemble. Et ce qui fait que quand on est à Copanam et qu'on est informaticien, enfin, en tout cas, moi, je me situe comme ça, c'est difficile de me dire, attends, on va utiliser du logiciel propriétaire parce que c'est plus pratique. Et non, en fait, nous, on est là parce qu'on croit que, on est contre les dominations, on est pour le faire ensemble, on veut élaborer ensemble quelque chose qui nous correspond, et un commun finalement. Et donc le logiciel libre à Copanam a toute sa place dans le sens où il y a vraiment une cohérence entre le projet qui est une coopérative comme celle de Copanam et le logiciel libre.
Oui, c'est très complémentaire. Enfin, ces deux réponses-là, elles sont très complémentaires. Il y a deux intérêts. Et effectivement, ça rejoint la question des valeurs et de ce que moi, au niveau de l'April, je faisais comme lien entre l'éducation populaire, les valeurs portées par l'éducation populaire et les valeurs portées par le monde libriste en général. Alors évidemment, après, il peut y avoir des petites disparités, mais en tout cas, effectivement, ça fonde une certaine cohérence. D'accord, très bien. Alors peut-être que justement vous pouvez décrire un peu quels sont tous les logiciels libres qui sont utilisés dans Copanam. Il y en a un certain nombre, si j'ai bien compris. J'en ai déjà utilisé certains, mais
ouais, ben voilà, ben je vais commencer l'énumération à la Prévert. Bon, tout d'abord notre système d'information. C'est la base de la base. C'est ce qu'utilisent les coopératoristes tous les jours. Donc, notamment, ça permet de mutualiser la compta et la paye. C'est basé sur Odoo, qu'on a mis quelques temps à mettre en version communautaire, parce qu'au début, on était en version entreprise. Quand l'équipe informatique s'est construite... c'était de la sous-traitance sur une version Odoo entreprise. C'était catastrophique parce que les spécificités de la coopérative étaient gérées par des gens externes. Enfin bon, c'était un peu l'enfer. Du coup, on a décidé de se réapproprier cet outil.
Alors, Odoo, on le catégorise dans quel type de logiciel ?
ERP.
ERP, hein. Et alors, en anglais, ça veut dire ? Mince. Alors...
la colle.
Oui, ouais. Ressources...
Enterprise Resource Project.
Merci, merci Vincent.
Bravo.
Voilà. Bon, en gros, en fait, ce sont des grosses machines, hein, pour expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas, ce sont des grosses machines qui intègrent effectivement plusieurs fonctionnalités à l'intérieur et qui centralisent de l'information qui vient de différents canaux, on peut le dire un peu comme ça, quoi, hein. Contrairement à un logiciel de traitement de texte qui va faire que du traitement de texte, là, on accumule de l'information qui vient de plusieurs sources, on va le dire comme ça.
Moi, quand je suis rentrée chez Copanam, ça m'intéressait au-delà de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ça m'intéressait aussi de rentrer parce qu'il y avait Odoo. Et dans mon entreprise de vendeur de vin, là, j'avais développé toute seule, avec mes petites mimines et mes zéro connaissances, un ERP interne. Donc, je trouvais ça bien quand même de s'appuyer sur justement de l'existence, sur des choses qui venaient de gens autres qu'une seule personne qui avait pensé les choses. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir cette expérience. Donc Odoo, bah, ça gère toute la compta de la boîte, que ce soit la compta des activités individuelles, la compta tiers, la compta générale, tout. Ça permet, enfin, c'est aussi un portail pour les entrepreneureuses pour faire leur devis, pour faire leurs factures, pour gérer leurs frais, pour suivre leur parcours au sein de la coopérative. Ça va bientôt gérer toute l'activité événementielle de Copanam. Donc ça, c'est Odoo. Après, peut-être vous prenez la parole sur d'autres choses que Odoo.
Allez, chacun son tour.
Allez, 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 on y va.
Alors, je vais commencer. En plus, c'est marrant parce qu'on a... J'avais des grands besoins de café en venant ici. On m'a filé une tasse de café dans une petite tasse de Vortex. Voilà. Ben en fait, déjà, quand on utilise des logiciels, il y a un truc qui est très, très important et qui est un petit peu invisible, c'est de rentrer dans le logiciel. On voit très bien avec RocketChat, là, enfin, c'est un peu pénible parce qu'il faut se créer un utilisateur, un mot de passe. Ça prend du temps, c'est rebutoire et parfois, c'est déjà une difficulté pour nombre d'utilisateurs. Et donc, nous, on a mis en front de tous nos outils un portail d'authentification qui est très très pratique, donc qui s'appelle Lemon LDAP, qui est d'ailleurs développé par la société Vortex, là, dont j'ai une tasse dans laquelle j'ai bu un savoureux café.
Quel lien avec la réalité, c'est magnifique.
N'est-ce pas ? Et voilà, donc on essaye de faire en sorte que toutes les applications soient très faciles d'accès, ensuite qu'elles soient très facilement utilisables, ça c'est notre paire de manches, hein, c'est ce qu'on appelle les interfaces utilisateurs, mais surtout l'expérience utilisateur. Et donc voilà, on commence par se connecter, qu'on soit dans la structure ou simplement utilisateur de tous les services, enfin les outils de Copanam, on commence par là. Donc c'est un gestionnaire d'authentification. Ensuite, en outils partagés, on fait un petit peu comme tout le monde, on essaye de le faire bien. On a un Nextcloud qui permet de faire du partage de fichiers, du partage d'agenda, de plein de trucs. Voilà. Un truc dont on est très content, c'est BigBlueButton. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire des visios, eh ben, les gens n'ont plus besoin d'avoir un abonnement Zoom. Ils peuvent faire avec BigBlueButton, Open Bar, tous les salons qu'ils veulent. Voilà. On intègre aussi des outils qui viennent de d'autres coopératives, dont 24e, la signature PDF, qui est quand même assez pratique pour ne pas avoir forcément besoin d'Acrobat Reader sur Windows pour remplir, aménager et organiser des PDF et les partager, les signer à plusieurs. Même. Voilà, on utilise beaucoup, comme vous, je pense, les pads avec EdgeDoc. On a des vieux logiciels, tout comme Framasoft, on partage pas mal depuis le logiciel avec Framasoft, en Drupal, en version 7, un très vieux truc. Ça, c'était un espèce d'intranet interne qui, avec une logique de flux, hein, qui permettait de partager un mini, à l'époque, c'était un mini, comment ça s'appelle, Facebook. Voilà. On a du WordPress encore, pour certains, donc un CMS, un Content Management System, qui sert à faire des sites web dynamiques. Pour notamment l'outil de formation professionnelle et actuellement encore le site institutionnel pour quelques semaines maintenant. Il va être changé dans des piles logicielles beaucoup plus récentes.
Le logiciel pour la formation professionnelle, c'est Opaga, hein, c'est
ça ? Opaga, ouais, ouais, développé par un collaborateur qui est aussi avec nous dans l'équipe mutualisée, qui s'appelle Dimitri Robert et qui est un ancien libriste très connu dans les cercles. voilà, on a du WordPress et puis maintenant, donc Marine notamment a initié des nouveaux développements avec des piles logicielles beaucoup plus récentes. Je te laisse parler, Marine.
Et on aura une petite question sur les serveurs et le coût lié aux serveurs aussi, après, après que Marine ait exposé.
Moi, juste Nux et Strapi, nos futurs sites web seront construits en Nux et Strapi et les futurs futures interfaces seront sûrement aussi sur ces technos.
Alors Nux et Strapi, moi j'en avais jamais entendu parler. C'est un peu comme du WordPress, j'imagine, mais
non, c'est basé sur du JavaScript.
D'accord, sur un langage informatique.
Voilà,
du
sur un langage informatique et
ouais, Vue. C'est basé
d'accord
sur Vue.js, enfin qui est basé lui-même sur du JavaScript. Ou du TypeScript. C'est des frameworks, c'est-à-dire que c'est
des modèles.
C'est compliqué d'expliquer les frameworks. c'est le nom de mon ordinateur, mais ça veut dire cadre, ça veut dire. C'est cadre de travail, je pense que c'est peut-être. Ça aide les développeurs à coder de la même manière, avec les mêmes règles, etc. Enfin, c'est un peu.
C'est ça, dans l'évolution finalement de la création de sites internet, au départ on codait vraiment chaque ligne et puis au fur et à mesure, les différentes couches qui sont venues s'intercaler simplifiaient le travail de mise en page, de rédaction, etc. Donc on donnait un cadre, c'est un petit peu ce que tu essaies d'expliquer, quoi, qui facilitait vraiment le travail pour le développeur ou pour celui qui édite simplement du contenu.
Non, pour le coup, c'est voilà. Pour le développeur, le
d'accord,
framework.
Très bien.
Voilà.
Très bien. Bah, avant peut-être la pause musicale, un petit point sur les serveurs Vincent sur.
On
n'a pas fini le panorama.
Nicolas n'a pas fini le panorama.
Je t'en prie.
Parce que ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est de voir l'outillage, en fait. Parce que tout ça fait partie d'un ensemble d'outils qu'on. Enfin, moi, je suis arrivé un peu après, donc j'arrive. Donc, Vincent, toi, t'as beaucoup œuvré pour ça. J'ai l'impression que vous avez été plusieurs à œuvrer là-dessus. Pour vraiment fournir aux coopératrices de Copanam un ensemble d'outils du logiciel libre qu'ils peuvent utiliser tous les jours dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, que ce soit Nextcloud, BigBlueButton, Signature PDF, EdgeDoc, et puis YesWiki qui arrive, etc. Donc là, on est vraiment dans un petit chaton, au sens chaton de Framasoft, internalisé à Copanam.
Ok, on verra la question des serveurs après la pause musicale. Je redonne la parole à Isabella.
Oui, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Carolina par Fit and the Convictions. On se retrouve juste après, dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Écoutez Carolina par Fit and the Conniptions, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabella Vanni de l'April et cette émission est consacrée au thème coopérative et logiciel libre, un exemple avec Copanam. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau trois personnes de l'équipe de Copanam, Marie Monnier-Baron, Vincent Lucie, Nicolas Duclos, au Duclos, ce sujet animé par Laurent Costi de l'April, auquel je redonne la parole. Mais important, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. À toi, Laurent.
Et on a oublié Vincent Lucie, mais je vais lui passer la parole, donc il va pouvoir se rattraper. Alors, on avait commencé à énumérer tous les logiciels libres utilisés à Copanam. Il y en a encore d'autres. On va peut-être pas tous les citer et on les mettra possiblement en référence sur la page de l'émission. Mais néanmoins, Vincent, peut-être expliquer comment dans le temps ça s'est consolidé au sein de Copanam et puis aussi au niveau de l'infrastructure et des serveurs, si tu peux éclairer un peu tout ça.
Oui, ben donc comme je l'expliquais quand je suis revenu, c'était qu'il y avait des gros problèmes d'infogérance informatique justement sur les serveurs de Copanam. Et on a une particularité, c'est que nous avons nos propres serveurs. On n'est même pas dans un data center chez OVH ou autre. On est dans une petite salle opérée par Yellow, donc maintenant, qui est adjacente à nos locaux. Donc on maîtrise toute la pile matérielle. Sauf quelques parties, ben la paille est encore externalisée et les notes de frais sont encore externalisées dans des services propriétaires et hébergés. Mais sinon, donc, toute notre comptabilité, tous les outils, y compris la visio, sont sur nos serveurs. Nous payons l'électricité, nous sommes chez Enercop, voilà, engagés jusqu'au bout. Et on essaye justement de récupérer le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, le matériel existant, je l'ai recyclé en fait. Moi, je suis admin 6 au départ, donc on a complètement changé de technologie de virtualisation pour passer sur de la technologie libre, qui est très connue dans le milieu, qui est très en vogue maintenant, qui s'appelle Proxmox. Mm-hmm. J'ai upgradé les serveurs existants, j'ai quand même acheté un nouveau...
Upgradé, pardon,
mise à niveau, c'est-à-dire on va rajouter des processeurs, on va rajouter de la mémoire vive, on va rajouter des disques durs, on va changer les technologies de disques durs.
D'accord, plutôt que de se dire, bah ça y est, là on arrive en limite, donc on change de serveur, quoi. Là on préfère réintégrer du processeur, voilà, de la mémoire, et puis les faire durer pour...
Voilà, typiquement j'ai doublé le nombre de processeurs, j'ai... plus que doubler la RAM pour pouvoir héberger tous ces services, changer complètement la nature, le type de disque dur, parce qu'on est passé sur des disques durs un peu plus rapides, enfin beaucoup plus rapides maintenant, avec les SSD et maintenant les NVMe. Et j'ai dû racheter quand même, mais alors chez le fournisseur bien connu de toutes les associations NISC, un serveur un peu plus péchu, parce que notre ERP Odoo est quand même... très consommateur. Ouais. Il ne va pas tourner sur un Raspberry Pi et il tourne. Quoique, je crois qu'il a été packagé sur Winhost. En fait, il faudrait demander à Alex. Voilà, voilà. Et donc, du coup, on essaye d'être. Voilà, avec moi le bouquin de Célia Isoar que je conseille à tout le monde. Hein, La rue est minière au XXIe siècle, hein, présenté avec un grand talent par notre collaborateur Richard Hanna dans son super podcast Écologie. C'est renversant, c'est bouleversant. Donc oui, il faut qu'on fasse super attention à notre empreinte numérique. Mais on sait que l'empreinte numérique de tout le monde, hein, elle est pas seulement dans les data centers. Elle est beaucoup du côté du matériel que les uns et les autres utilisent. Et donc là aussi, dans la coopérative, on essaye d'accompagner les gens pour qu'ils diminuent leur empreinte, si possible. Et voilà.
Très bien, merci pour cet éclairage. Alors peut-être qu'on peut aller détailler un peu les logiciels les plus importants pour Copanam. Et aussi les logiciels auxquels finalement Copanam contribue, parce que Copanam n'est pas qu'utilisateur ou utilisatrice de logiciels libres, elle contribue. Donc si vous pouvez éclairer peut-être ça,
oui.
Nicolas.
Ben sur les logiciels, donc il y a vraiment cette préoccupation de Copanam de contribuer au logiciel libre, à la fois dans le réseau du logiciel libre, en particulier le réseau francophone, et à la fois de contribuer par le développement de logiciels sur certains outils. Donc le plus gros outil, on en a beaucoup parlé, c'est Odoo, donc c'est vraiment celui qui accapare une grosse partie de l'activité de l'équipe informatique. Avec Marine qui est là, Alex et Manu qui font un travail, je dirais, assez colossal sur Odoo pour pouvoir le packager et le customiser pour les besoins des CAE de manière générale et pour les besoins de Copenhague en particulier. Donc aujourd'hui, il y a ce travail qui a été fait qui fait que Odoo a des briques open source libérées, que je suis en train de gafouiller, de perdre mes mots, mais des briques libres que potentiellement n'importe quel CE pourrait utiliser. Donc ça, ça a été un gros travail. C'est un travail qui a été commencé quand Vincent est arrivé et qui a vraiment aujourd'hui pris forme et qui s'est fait dans la durée, un peu avec des difficultés à certains moments. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où globalement, l'ensemble des entrepreneuses de Copenhague sont satisfaits. Et l'équipe mutualisée qui utilise aussi pour le suivi de toute la gestion administrative en est également satisfaite et on le fait encore évoluer en fonction des besoins.
Combien de temps pour en arriver à cette satisfaction du coup finalement si on résume?
Alors je vois qu'il y a Marine qui voulait parler parce que moi je parle d'Odoo alors que j'ai assez peu travaillé sur Odoo donc je me sens pas complètement légitime pour ça alors que Marine a quand même beaucoup plus travaillé dessus.
Marine va répondre.
Et il a fallu sortir de Odoo entrepreneur. Il a fallu quitter ça et à partir du moment, mais ça a été long.
Alors, on va peut-être expliquer la différence entre Odoo entrepreneur et
propriétaire, je veux dire. Propriétaire.
Ouais. Ouais. Propriétaire où on n'avait pas les possibilités de modifier le code, on devait payer pour ce qu'on utilisait, on était angoissé de devoir payer, enfin c'était et il a fallu en sortir. Et pour en sortir, ça veut dire qu'il y a des bouts de code qu'il fallait réécrire. Alex a énormément œuvré, pas simplement pour les réécrire, mais aussi pour les identifier. C'est-à-dire que et ça c'est aussi le libre, c'est-à-dire que dans le libre, les choses sont écrites pour être facilement lisible, utilisable par les uns et les autres. Alors que dans le monde des propriétaires, on a l'inverse, on a un code qui est obscur et incompréhensible. Mais donc sortir de ça, ça nous a permis après de, ça nous permet, c'est même pas, ça nous a permis, ça nous permet de pouvoir être dans une réponse aux utilisateurs. Et ça, c'est quand même très chouette.
Alors on est particulièrement tous individuellement, parce qu'il n'y a pas d'adhésion de personne morale, on est tous individuellement adhérents de l'Odoo Community Association, qui est un collectif partiellement francophone aussi, mais ultra performant pour développer des modules libres. Il faut voir Odoo comme un énorme puzzle qui partage une seule base de données, donc tout peut communiquer, mais chaque pièce de puzzle peut intégrer des logiciels métiers très différents, en fait. Voilà. Et en fait, c'est une base utilisatrice mondiale de plein de métiers différents qui utilisent Odoo dans du code qui est publié sous licence libre AGPL.
Très bien. Et du coup, on a deux mondes qui cohabitent. Il y a le Odoo Community et Odoo Enterprise, hein, c'est ça? Ouais.
Exactement. Voilà. Alors, le modèle économique, c'est ce qu'on appelle les logiciels open core, dont vous avez dû souvent parler sur ce plateau. Donc, le principe des logiciels open core, il y en a même des francophones qui sont bien, qui sont très bien. Je pense à BlueMind, par exemple, Server Mail. En fait, sans souscription, on ne peut pas gérer les mises à jour. Il faut savoir qu'on a une règle du 80-20. Hein, c'est en gros 80% d'un logiciel, quel qu'il soit, c'est sa maintenance, c'est pas sa création. Donc, ce qui compte dans le modèle économique de l'industrie informatique, c'est la maintenance dans le temps. Voilà. Et donc, le principe de ces logiciels open core, bien que le code source soit disponible, c'est de rendre payant les mises à jour. Donc voilà, et là, c'est là que l'OCR a produit un travail exceptionnel par des CAE admis aussi. Je pense à Sylvain Dugrappe qui a beaucoup travaillé sur le logiciel Open Upgrade, qui est justement le logiciel qu'on va intensément utiliser dès à présent, là, qu'on a déjà utilisé pour sortir de la version propriétaire. Et maintenant qu'on va devoir utiliser pour faire un gros chantier qui nous attend cette année là, de mise à jour de Odoo.
Voilà. Je vais te passer la parole, Nicolas. Il y a une émission sur justement l'évolution des modèles économiques autour du logiciel libre. Alors, on va me redonner le numéro d'émission dans le chat tout à l'heure. Mais du coup, cette question effectivement des modèles de l'open core, des modèles libristes, etc., était soulevée et évoquée. Nicolas, je t'en prie.
Ouais. Pour continuer sur Odoo, Je pense que ça fait partie justement des choix qui sont à la fois assez courageux et militants de Copanam. C'est-à-dire que aujourd'hui, à mon avis, les autres CAE, j'en connais pas. Enfin, je vois pas trop. J'utilise plutôt des logiciels propriétaires parce que c'est déjà en place, ça existe déjà, c'est déjà tout packagé. Et le fait d'investir là-dedans, à mon sens, c'est un choix politique assez fort de Copanam là-dessus.
Il y a juste en ERP, il y a Dolibar en alternative et puis point barre, enfin, c'est le cas de le dire, pour avoir beaucoup cherché. Voilà. Donc c'est
Paiko.eu aussi, mais effectivement, je pense qu'on est sur des structures. Alors peut-être que les développeurs qui ont développé diraient que c'est pour des structures plus. Enfin, que ça peut répondre à des grosses structures, mais en général, moi je sais que c'est des outils que je suggérais en milieu associatif pour des petites et moyennes associations. Quoi. Mais voilà, à partir de 500, ça commence à être limite. Quoi,
je pense. Dans le monde des CAE, il y a Tong aussi qui a été développé par d'autres CAE, mais qui ont un périmètre fonctionnel complètement différent. En fait.
Et dans les choix aussi qui ont été faits, qui sont des choix assez forts, hein, il y a Opaga qui est le logiciel qui permet à Copanam, on va dire, de gérer sa partie organisme de formation. Et ça, en logiciel libre pour gérer un organisme de formation, a priori, aujourd'hui, on ne connaît que Opaga. Et c'est un gros projet dans le sens où à la fois il y a une pression administrative importante avec Calliope et puis et il faut que ce soit répercuté au niveau logiciel avec des entrepreneuses qui font de la formation et qui sont pas toujours là et qui utilisent un logiciel qui est encore en développement mais qu'on veut pousser pour que ça puisse fonctionner pour être organisé de formation parce que c'est un des gros projets de Copanam. Donc voilà, pour moi Odoo et Opaga c'est vraiment deux gros choix très importants. Et puis, peut-être, Vincent, tu veux dire la suite.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein. Il nous reste un quart d'heure. Alors, donc,
je fais vite. L'énorme projet sur lequel on est, c'est de contribution qui a été déjà un grand travail grâce à notre collaborateur Sylvain Lehmann. C'est YesWiki, un wiki très, très utilisé dans l'éducation populaire. Ouais, Bookinet, exulte. Donc on a apporté, en fait, Sylvain a développé, c'est un senior développeur en PHP, et il a apporté une extension pour avoir ce fameux truc dont je parlais au départ, là, qui est la connexion juste en appuyant sur un bouton. Là. C'est-à-dire qu'en fait, YesWiki peut se connecter, vous authentifier à partir du fournisseur d'identité de votre structure, quelle qu'il soit, d'accord, avec une norme logicielle qui s'appelle OpenID Connect, qui le différencie du coup beaucoup et très fondamentalement de plein de logiciels no-code où on peut s'authentifier que si on a un compte Google ou Facebook ou Microsoft. Là, non, on peut avoir du Lemon Adapt de Vortex, du Keycloak de Red Hat. Enfin voilà, on est libre d'avoir son propre fournisseur d'identité. On n'est pas obligé de passer par les GAFAM.
Bah, merci pour cet exemple très concret. Alors du coup, je reviens sur l'émission 205 qui parlait de la gouvernance justement des projets libres et était évoquée aussi un peu la question des modèles économiques dans cette émission. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous y référer. Alors moi, la question suivante que j'avais envie de vous poser, c'était finalement la conscience des coopérateurs et des coopératrices au sein de la coopérative par rapport à toutes ces questions du numérique libre. Est-ce qu'on est plus sur des gens qui disent mais moi j'ai mes habitudes d'outils, vous êtes compliqué avec vos trucs. Est-ce que il y a des gens qui sont sensibles à cette question-là?
Bon, je dirais que en fait, il y a ceux qui le sont déjà. Enfin, par exemple, c'est marrant parce que sans le savoir, hein, il y a plein d'informaticiennes et d'informaticiens qui sont dans Copanam qui utilisent déjà YouNost. Alors, YouNost, c'est le Y qui se prononce Y en anglais. Donc, c'est YouNost. C'est un logiciel d'auto-hébergement qui est basé sur une distribution extrêmement performante qui s'appelle Debian. Et voilà, donc Alexandre est l'architecte, un petit peu. Donc, c'est un truc très important dans l'univers des chatons. Pour lutter contre les GAFAM et être souverain par rapport à l'auto-hébergement. Donc, par exemple, il y en a plein, en fait, chez nous, qui utilisent déjà YNOST sans qu'on ait...
Je confirme.
Ouais. et après, donc, il y en a beaucoup d'autres ou qui utilisent déjà tout l'écosystème de Framasoft. Hein. Framasoft a fait un travail d'éducation populaire, mais magnifique. Et donc, beaucoup de gens utilisent déjà Framadat, utilisent déjà de l'Etherpad très, très couramment. Et pour les autres, et ben en fait, c'est une découverte qui commence vraiment dès l'intégration en fait. C'est-à-dire que dès qu'on intègre Copadam, on est mis dans un mix où il y a forcément des libristes, en général. Et donc, du coup, ça fait une perméabilité. Et les gens disent, ah ben tiens, ça pourrait, déjà au départ, hein, ça pourrait être gratuit. Alors nous, on est toujours à dire, attention, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais quand même, voilà, voilà, il y a cette perméabilité qui fait qu'il y a une connexion et un apprentissage génial. Ouais.
Merci Nicolas, tu voulais compléter ?
Ouais, je voulais abonder, en fait j'ai demandé à prendre la parole au moment où tu étais en train de dire des trucs à peu près que je voulais te dire, mais c'est vrai que tous les deux on s'est quand même pas mal cassé les dents dans le milieu associatif, dans une association en particulier, parce qu'on était très 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 militants du logiciel libre et on avait cette impression que ça correspondait vraiment aux valeurs de l'association et on voulait vraiment le porter fort, haut et fort, et on s'est un peu cassé les dents là-dessus, à Copenhague, dans un milieu bien plus conciliant avec ça, parce que les gens qui viennent à Copenhague, ils ont une conscience politique, ils se posent des questions à la fois sur plein de trucs de l'ordre de la société, du faire ensemble, et le logiciel libre, ça correspond tellement déjà à ce qui fait qu'on arrive à Copenhague que il n'y a pas grand chose à faire pour dire, ben voilà, on fait du logiciel libre et c'est ce qu'on veut et ça correspond à notre projet. C'est pas toujours facile parce que des fois, quand on fait des choix de logiciels, eh ben, y a des logiciels propriétaires qui vont répondre mieux aux besoins que des logiciels du libre. Et quand on a une pression et qu'il faut facturer rapidement et qu'on a une activité à mettre en place et qu'on veut rentabiliser, eh ben, et qu'on se retrouve un petit peu face à des choses où on se dit peut-être que le propriétaire ça irait plus rapidement, ben c'est aussi il y a ça qui se passe et le fait d'être dans cet écosystème qui se dit ben ok je suis capable de me dire mais en fait moi j'ai un projet politique derrière, je soutiens un projet politique, du coup je suis prêt à passer par-dessus ça.
Avant de passer la parole, Marine, je confirme. Alors moi, j'arrive très récemment dans Copenhague, hein, mais effectivement, je ne m'attendais pas à trouver autant de gens qui se revendiquaient de l'éducation populaire, par exemple. Donc effectivement, avec cette question politique, je trouve ça extrêmement intéressant. Marine, je t'en prie.
Dans l'éducation populaire, il y a l'idée de la construction commune, construire ensemble. Et construire ensemble pour soutenir la coopération, ça fait partie des valeurs fondamentales de Copenhague. En faisant de l'ensemble, on comprend mieux les choses, on avance mieux. Et donc, le logiciel libre, c'est vraiment la construction ensemble, vraiment. Donc, on est vraiment absolument dans le.
C'est très cohérent.
C'est très cohérent avec le projet strictement politique de Copenhague, en fait.
Parfait. Alors. Du coup, la question qui viendrait après, c'est finalement par rapport aux autres coopératives que vous croisez dans certains événements qui rassemblent justement les questions des SIG, des SCOP, des, enfin voilà, tout cet univers-là qui est finalement assez récent, on s'entend, mais comment les autres coopératives appréhendent ces questions-là finalement ? Est-ce que Copenhague est en avant sur ces questions-là ? Est-ce qu'elle est un peu moteur pour les autres ? Est-ce que vous parliez de 24e là tout à l'heure, je crois ? Comment ça s'agence ? Comment ça se joue ?
Je fais une petite parenthèse 24e parce que j'ai passé quelques mois en tant que coopérateur. Du coup, la connexion avec la 4e, elle est beaucoup là-dessus. Puis il y a Vincent du 24e qui a développé un logiciel qui s'appelle PDF Signature et qu'on utilise parce qu'il y a la question de la signature et que c'est une question importante pour toutes les choses administratives. Mais voilà, je pense Vincent, tu peux répondre.
Oui, alors les autres CAE sont déjà dans la mutualisation, naturellement. Mais en gros, historiquement, il y a deux réseaux. Il y a un réseau, on va dire, ouest et un réseau est des coopératives d'activité et d'emploi. Hein. Donc vraiment, les coopératives d'activité et d'emploi, c'est une loi. Hein. C'est la loi Hamon de 2014 sur l'ESS qui institue les coopératives d'activité et d'emploi. On ne l'a pas dit, mais ça fait du bien de le rappeler. Grosso modo, on est le seul objet juridique qui permet de faire une provision sur salaire. Donc souvent quand on est entrepreneur dans le service, on a des contrats, des gros contrats qui tombent à la fin de l'année. Et ben dans une coopérative d'activité d'emploi, on peut lisser son salaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se verser des grosses primes en novembre et décembre et de se faire assassiner par les impôts. on peut justement, en fait, c'est vraiment la seule forme juridique où on peut décider de partir 3 mois en vacances, mais on va continuer de se verser son salaire à, je sais pas, au prix qu'il nous faut, enfin, au prix qui nous suffit.
T'arrives à partir 3 mois en vacances d'affilée, toi?
et à te verser des primes. Oh.
Voilà, donc elles utilisent déjà beaucoup de mutualisations. Il y a beaucoup de mutualisations, historiquement, un peu le vieux monde, dans des outils propriétaires, mais qui sont partagés. Donc, ils peuvent essayer de partager un petit peu les coûts. Et puis, dans le réseau Ouest, donc Coopérer pour Entreprendre, il y avait un vrai logiciel libre partagé de gestion, de pilotage, en fait, des activités économiques, avec un back pour les structures et un front pour les... pour les entrepreneurs salariés.
Un site, voilà, un site d'accès pour les utilisateurs, un site aussi pour gérer à partir de... Voilà, pour administrer finalement le
voilà,
site.
Voilà, les parcours et puis un petit peu le pilotage économique, mais sans la comptabilité. Copanam n'a pas marché dans ses traces parce qu'en fait, Copanam avait un problème d'échelle. Directement, nous, on était 800 à l'époque. Voilà. Et on n'aurait pas pu, en fait... Et notre problématique, elle était comptable avant tout. On n'est pas parti avec les mêmes problèmes parce qu'on n'est pas parti avec le même taille. Copanam, c'est la plus grosse coopérative d'activité d'emploi en France en nombre de personnes. D'accord. Pas en chiffre d'affaires, hein, parce que dans le bâtiment, ils ont des chiffres d'affaires beaucoup plus importants. Mais voilà, un capharnaüm généraliste en plus, donc un capharnaüm administratif qui nécessitait d'avoir un outil vraiment adapté. Donc, mais il y a de la mutualisation. Hein, puis, par exemple, YesWiki est utilisé au moins dans 13 CAE.
Voilà. Sur combien, du coup?
Sur 150.
150 CAE en France.
Okay. Un peu plus. C'est lescae.coop. On mettra
le lien dans le Merci.
Et après, tu poses la question des coopératives de manière générale. Je pense que nous, on a répondu plutôt avec l'angle CAE.
Ouais.
La coopérative, c'est quand même un plus vaste monde.
Ouais.
Et notamment, il y a quand même pas mal de coopératives du logiciel libre, donc, qui sont libristes jusqu'au bout des doigts. Et nous, autant on est très 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 libriste, autant on a encore des secteurs qu'on n'a pas réussi à libérer, comme les notes de frais par exemple, la gestion des notes de frais qui reste encore, ou le mail, même si c'est dans les projets, on a ça dans les cartons, on est encore on sait que à terme, on a encore pas mal de chantiers pour libérer encore plus le système informatique de Copanam, mais c'est vrai qu'on part d'assez loin, quoi.
Oui, c'est vrai qu'après, on n'a pas du tout cité les coopératives ou les SIC qui œuvrent justement sur la question du logiciel libre. Moi, je connais en particulier la SIC CLIS21 qui a développé Beneva Libre, par exemple, entre autres, hein, mais qui en développe plein d'autres choses. Mais oui, voilà, effectivement, on aurait pu aussi citer ces structures-là. Il nous reste 6-7 minutes. Je sais pas, vous prenez la parole chacun à votre tour. Et puis, ce sur quoi vous voulez appuyer, répéter, ou ce qu'on n'aurait pas abordé et que vous avez envie de partager? Marine ? Ah pardon, Vincent peut-être, tu voulais.
Ouais, je vais enchaîner. En fait, du coup, on est... Maintenant, je parlais historiquement, il y avait deux réseaux, hein, pour faire de manière assez caricaturale, un Est et un Ouest. Et là, grande révolution il y a quelques années, en fait, c'est unification du réseau avec la fédération des CAE. Ben, du coup, Copanam, on est dedans. Enfin, d'ailleurs, on a notre ancienne co-directrice qui est co-présidente maintenant de la fédération des CAE. Et moi, j'ai poussé, en fait, pour qu'on utilise... On a un super événement aussi, on n'en a pas parlé, on a oublié, c'est une grosse erreur, pour l'intelligence collective et le mélange des entrepreneurs sur un temps d'été, un temps mi-loisir, mi-travail. Karine Julien, chez nous, est la grande orchestratrice de la Bigre Rencontre, hein, qui est un moment d'intelligence collective exceptionnel. Ça se passe au Lazaret, fin août. Et...
C'est à
7, ouais. Et c'est plus de 250 personnes qui se rejoignent pendant une semaine, une petite semaine peut-être, parce que les prix sont un petit peu augmentés, merci le Covid. Et ce faisant, en fait, on a commencé par utiliser notre connaissance en tant que libriste des outils libres de co-construction des programmes, notamment au JDLL. Voilà. Et donc, j'ai installé du Pretalks pour la Bigre Rencontre, et ce Pretalks pour la Bigre Rencontre, on l'a utilisé avec bonheur, parce qu'avant c'était pas beau du tout, les programmes générés par les outils propriétaires, et du coup maintenant la Fédération des CAE utilise aussi Pretalks, du coup on a réussi à faire financer le développeur Rix de Tobias de Pretalks un petit peu. Donc ça, c'est chouette. On arrive aussi à contribuer sur les logiciels libres. On n'a pas parlé, mais sur Nextcloud, même si on ne développe pas sur Nextcloud.
Tu laisses du temps à Nicolas et à Marine. Hein
ouais, c'est une petite structure dans Copenham qui s'appelle la Dérivation, qui a créé de la documentation financée par Copenham sur Nextcloud, et la seule documentation vraiment faite par des utilisatrices pour des utilisatrices.
Merci Vincent. Marine,
moi, ce que je voudrais dire, c'est que sans Libre, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. C'est vraiment chouette d'avoir fait plein de choses différentes dans ma vie et de toujours avoir utilisé Libre de manière différente, que ce soit en tant qu'enseignante, que ce soit dans les petites structures dans lesquelles j'ai pu travailler. Et maintenant, chez Copenham, j'ai l'impression, je ne suis pas contributrice directe, mais j'ai l'impression de contribuer plus tout de même, grâce au collectif, à ce monde-là, et qui me semble juste fondamental et un peu rassurant dans le reste du grand monde. Voilà, donc je suis ravie de tout ça. Voilà.
Oui, malgré la collapsologie, il faut rester zen.
C'est ça.
Nicolas, pour conclure.
Oui, ben un peu comme toi, Marine, pour aller dans le sens. Moi, je veux vraiment démarrer mon parcours idéologique et politique en découvrant le libre que j'étais encore un grand gamin, mais grand gamin quand même. Et c'est vrai que ça a orienté un peu, ça m'a ouvert le champ potentiellement jusqu'à Copenham. Et si je suis à Copenham aujourd'hui, c'est par ce chemin du libre. Et c'est pour ça en fait que je me rends compte que pendant toute l'émission, j'ai essayé d'amener la cohérence entre Copenham et le libre, parce que pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble.
Ah, merci. Alors, on a encore peut-être 2 minutes, mais peut-être pour lancer une prochaine émission où Copenham reviendrait, comment arrive la question de l'intelligence artificielle, par exemple, à Copenham ? Ah, c'était pour lancer un peu Vincent. On a 2 minutes, hein, donc on ne va pas pouvoir faire le tour de la question.
Tu poses cette question à 2 minutes de la fin.
C'est ça.
Alors, c'est osé.
C'est tout à fait le sujet d'ici, de l'émission Libre à vous, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce aux transcriptions de Libre à vous, et on a pas mal un petit peu échangé avec l'équipe. Alors nous, on a une problématique, c'est qu'on fait aussi on a un super outil de visio avec BiblioButton, donc on fait des séances d'éducation populaire, hein, vraiment avec les 100 minutes de la coopération initiée par Stéphane Veillard. Maintenant, les 80 minutes, bon, je sais plus exactement les titres, hein, mais voilà, tout est disponible en replay. Mais sauf que ça se passe avec les outils de chacun chez soi, on n'a pas des micros professionnels comme ça, on n'a pas des lignes séparées. Donc là, on a utilisé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Gladia, qui est vraiment ultra performant et qui permet d'avoir une correction d'erreur, alors pas toujours souhaitable d'ailleurs, parfois on aime bien dans la transcription garder des contresens, des choses comme ça, mais en tous les cas, ouais, on a pris de l'intelligence artificielle là où elle s'impose, en fait, parce qu'elle est extrêmement puissante. On ne la fait pas tourner sur nos serveurs parce qu'il faudrait qu'on fasse des montées de version pour éventuellement acheter une carte graphique qui puisse permettre de faire tourner ça. Ça consomme énormément, mais encore une fois, même si ça consomme, c'est nous qui payons l'électricité via Enercop. Hein, donc on l'assumerait, mais pour l'instant, ce n'est pas clair du tout. Quoi. Voilà, quels sont les meilleurs algorithmes ? C'est un vrai sujet.
Mais il y a la question de l'écologie derrière l'intelligence artificielle qui est aussi une préoccupation qu'on a et qu'on s'est déjà posée à Copenham.
Prochaine émission avec Copenham. Alors. Okay. Merci à vous trois. Je vais redonner la parole à Isabella et puis on va terminer l'émission. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous écouterons une chronique Les Zoomers de G. Pour l'instant, nous allons écouter Night par Cosmo Rider et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. venons d'écouter Night par Cosmo Rider, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Isabella Vanni de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Les Humeurs de G sur le thème Mickey dans le domaine public. C'est une rediffusion d'une émission du 16 janvier 2024. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après.
Allons donc poursuivre par la chronique Les Humeurs de G. G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode de numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme. Toujours avec humour, l'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème du jour, Mickey dans le domaine public. Bonjour G.
Bonjour Fred. Et salut à toi, public de Libre à vous. Eh oui, tu ne rêves pas, tu as bien entendu. Mickey Mouse, la célèbre souris mascotte du géant de l'entertainmental américaine Disney, vient d'entrer dans le domaine public. Et ça, c'est quelque chose que je n'étais pas sûr de voir de mon vivant. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple bonne raison que le délai avant qu'une œuvre n'entre dans le domaine public s'est progressivement rallongé au fil des années, entre autres sous la pression de Disney, que l'idée d'un Mickey Mouse dont il n'aurait plus l'exclusivité faisait frémir. La durée du copyright, le droit d'auteur américain, est passée de 50 à 75 ans en 76, puis à 95 ans en 1998. La loi de 98 a même été surnommée le Mickey Mouse Protection Act, c'est dire. Nous étions donc pas mal à nous attendre à des allongements réguliers de ce copyright pour que jamais, au grand jamais, Mickey n'entre dans le domaine public. Et finalement, non. Pas d'extension supplémentaire et Mickey entre donc dans le domaine public en 2024, 96 ans après ses premières apparitions en 1928, notamment dans le célèbre court-métrage Steamboat Willie. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors Disney, on a acheté l'éponge ? On s'est dit, ouais, tant pis, après tout le profit, c'est quand même pas tout dans la vie. Attends, Disney, me dis pas que t'as été infiltré par des libristes, des gauchistes du copyleft et de l'art libre, là. Alors, a priori, non. Hein. Rassurez-vous, hein, chez Disney, on pille tranquillement le domaine public depuis des décennies. Hein, on compte plus les contes de Perrault ou autres adaptés en dessin animé, même notre Victor Hugo National adapté en Bossu de Notre-Dame. Mais alors, quand on pond des trucs originaux chez Disney, là, c'est verrouillé, cadenassé, avec dépôts de marques de partout et puis carrément des lois sur mesure. Hein. Pas touche. Et c'est pas parce que Mickey entre soi-disant dans le domaine public que ça va être la fête du slip pour autant, attention. Déjà, on dit Mickey. Mais des Mickey, il y en a plein. Celui qui entre dans le domaine public, ça n'est que la première version, celle du fameux Steamboat Willie. Et elle a pas vraiment la même tête que la version d'aujourd'hui. Elle est en noir et blanc, Mickey n'y a pas ses fameux gants blancs, et il a de manière générale un design assez différent. Donc ça d'accord, c'est dans le domaine public, mais ne vous amusez pas à utiliser le Mickey de Fantasia de 1940 avec son chapeau de magicien et tout le tintouin. Ça c'est toujours verrouillé et c'est pas prêt d'être libéré, délivré, tout ça. On ajoute à ça la joyeuse confusion entre propriété intellectuelle expirable comme on vient de le voir et marque déposée qui quant à elle est renouvelable indéfiniment. Bien évidemment, Mickey étant la mascotte de Disney, vous vous doutez bien que des marques déposées, la souris, elle en a deux trois au cul. Alors bon, la séquence où Mickey sifflote en tenant le gouvernail de son steamboat dans le dessin animé de 1928, elle est dans le domaine public, d'accord. Mais la même séquence que Disney utilise comme animation d'intro pour l'intégralité de ses films d'animation depuis 2007, ça serait-il pas une marque, ça ? Alors, c'est sans doute un hasard, hein, si Disney a choisi cette séquence, hein, n'y voyons sûrement pas un moyen de limiter au maximum les usages possibles d'un Mickey dans le domaine public, non, non. C'est sans doute aussi un hasard si Disney a ressorti un nouveau design rétro pour Mickey en 2013. Oui, nouveau rétro, hein, ça a l'air d'un oxymore, mais non. Hein. C'est comme on dit, le confort du neuf dans le charme de l'ancien. En gros, ça a la même tête que l'ancien, mais avec le copyright du nouveau. Pas con, hein ? Bref, même si théoriquement, vous avez désormais le droit de faire des œuvres dérivées du Mickey de 1928, renseignez-vous quand même bien sur l'étendue de ce que vous avez le droit de faire. Oui, parce que quand on s'attaque à la poule aux œufs d'or d'une entreprise tentaculaire avec ses armées d'avocats et de lobbyistes, vaut mieux pas y aller en slip. Pas comme le Mickey de 1928, du coup. Mettez plutôt des gants, comme le Mickey de 1940, En faisant gaffe au copyright, mais je sais, c'est compliqué. Bon, après, je me moque des Américains avec leur loi sur le copyright taillée sur mesure pour protéger les profits démentiels des grosses boîtes comme Disney, mais si on regarde de notre côté de l'Atlantique, c'est pas beaucoup plus reluisant. Déjà, nous, on a ce truc des œuvres protégées 70 ans, mais pas après la publication de l'œuvre, hein. 70 ans après la mort de l'artiste. Par exemple, Saint-Exupéry étant mort en 1944, Le Petit Prince n'est entré dans le domaine public qu'en 2015, et encore pas en France. Pourquoi pas en France? Eh bien parce qu'en France, à ses 70 ans s'ajoute une extension des droits d'auteur de 18 ans, car Saint-Exupéry est mort pour la France, et Le Petit Prince n'y entrera donc dans le domaine public qu'en 2033. Alors, la justification, c'est parce que, comment vous dire, comme il est mort pour la France, il est mort jeune, et du coup il a pas pu écrire tous ses bouquins qu'il aurait dû écrire, à cause de la France. Donc c'est logique que ses livres soient publiés, que les livres publiés soient protégés plus longtemps, comme ça il peut... Enfin, ses descendants, lointains, en 2030, quoi. Enfin, ses descendants pourront continuer à gagner de la thune dessus et... Je sais pas, c'est juste, c'est équitable.
Non.
Donc, j'en sais rien, moi. J'ai toujours trouvé ça débile que le droit d'auteur se transmette aux descendants, mais bon. Je vais pas embrayer sur un débat sur l'héritage, hein, parce que sinon, on va encore y passer deux heures. Bon, et puis, de toute façon, hein, domaine public ou pas, chez nous aussi, on sait faire joujou avec le droit des marques. Donc les héritiers de Saint-Ex ont déposé le personnage du Petit Prince comme marque de commerce, et puis voilà, c'est bon, c'est plié. Voilà, et ben moi, je serais pour qu'on arrête avec ces délires de décennies entières de soi-disant de protection, mais qui ne protègent absolument pas les œuvres, surtout les profits, des verrous qui ne servent en fait qu'à traire des vaches à lait et à bien asseoir le pouvoir des industries du divertissement. La culture est libre, par essence, par construction de l'imaginaire humain. Une œuvre n'appartient à son auteur ou à son autrice que tant qu'elle n'est pas publiée. Dès lors que quelqu'un en prend connaissance, dès lors qu'on lit ce livre, qu'on écoute cette musique, qu'on regarde ce film, alors cette œuvre vit dans notre esprit et elle y vit sa vie. Elle s'y transforme, elle nous inspire, on la modifie, on la partage, tout comme on le ferait avec une œuvre sous licence libre, sans beaucoup d'égards pour les lois du copyright et des extensions à gogo. J'irai même plus loin, qu'une poignée de puissance réserve l'exclusivité des droits sur ce qui constitue notre imaginaire collectif, c'est un problème démocratique majeur, et heureusement que beaucoup n'attendent pas la libération du domaine public pour faire ce qui leur chante des œuvres copyrightées, que ce soit sous le radar, ou grâce à des exceptions comme le droit de parodie en France. Ouais, reconnaissons qu'on a aussi des trucs bien dans notre droit d'auteur à nous, et le droit de parodie en fait partie. Pour conclure, je vous rappelle que contrairement à la majorité des émissions de radio, Libre à vous est une émission sous licence libre, vous n'aurez donc pas à attendre 70 ans après ma mort pour faire absolument ce que vous voulez de cette chronique, la remixer, la partager, la vendre même si ça vous chante. Au passage, si vous trouvez des acheteurs, je veux bien leur nom parce que ça m'intéresse. Vive le domaine public, vive l'art libre, vive la toute petite partie de Mickey qui a été libérée, et salut.
Mais écoute, merci G. La fin de ton intervention m'a rappelé une citation de Victor Hugo, donc j'ai eu le temps de retrouver très rapidement, et qui, je pense, parlera à Magali. Donc c'était le discours d'ouverture du Congrès littéraire international, Victor Hugo, 1878. La citation, le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais aussi comme pensée, il appartient, le mot n'est pas trop vaste, au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain, le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait certes le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. Voilà, Victor Hugo, 1878.
Non mais il m'a tout piqué cet homme-là.
Et donc si vous voulez soutenir G pour rebondir sur les boutons donnés dont on parlait tout à l'heure, Anka, sur le site grisebouille.net, le site de G, vous avez un bouton qui permet de soutenir le travail de G, qui, je le rappelle, est auteur à temps plein et chroniqueur à temps partiel, mais bénévole dans Libre à vous.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter la rediffusion de la chronique de G du 16 janvier 2024 sur le thème Mickey dans le domaine public. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. L'épisode du 3 mai 2024 de l'émission Comme un vendredi était consacré aux émissions de la radio Cause Commune qui parlent d'informatique dans, bien évidemment, Libre à vous. La vidéo de cet épisode est disponible désormais en ligne. La mission Logiciel Libre de la Direction Interministérielle du Numérique a reçu le prix du Logiciel Libre 2023 décerné par la Free Software Foundation dans la catégorie Projet d'intérêt sociétal. Vous pouvez lire le discours d'acceptation de Bastien Guéry, qui est dans la page avec toutes les références de l'émission. Journée d'ateliers et débats autour de liberté informatique à Paris le samedi 18 mai 2024 à partir de 9h30. C'est un événement organisé par GlobeNet, Ritimo, Parinux et le Centre Paris Animation Montparnasse. L'April sera présente aux journées du logiciel libre les 25 et 26 mai 2024 à Lyon. Nous cherchons encore des bénévoles pour la journée de samedi pour nous aider à tenir notre stand. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez des disponibilités. Et bien sûr, je vous invite à consulter l'agenda du libre pour les autres événements en lien avec le logiciel libre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Laurent Costi, Marine Monnier-Baron, Vincent Lucie, Nicolas Duclos, J. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Magali Garnero. Et merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Langen, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet, qui est un Gibault, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sous le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Si vous nous remercions d'avoir écouté l'émission, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Libre à vous fait une pause de 2 semaines. Nous serons de retour avec une émission inédite mardi 28 mai 2024 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les modèles d'organisation ouverte dans les entreprises de logiciels libres. Ce sera donc notre deuxième émission consacrée à ce thème. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 28 mai. D'ici là, portez-vous bien.
Cause commune. Retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm.
Pour pas que les videurs me tricardent.
Salut à tous et bienvenue. L'émission Séance Cycli, moi c'est Marianne et ça se passe sur Cause Commune, fréquence 93.1.
2m10, un clando, un bon morceau. Mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux.
Une fois par mois, je vous raconterai un cycle entier sur un artiste ou un courant musical, divisé en 4 parties complémentaires qui forment un tout. Alors d'abord l'événement, un film, un documentaire, un livre, un album ou un concert. Ensuite l'avant, les influences, puis l'après, les résonances. Et enfin le presque inénarrable, le morceau qu'il faut chérir et retenir.
Nos bons délires, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, il y en a pas des, il y en a pas des milliers.
Pour ce cycle, on va parler du Brian Johnstown Massacre et le programme, c'est le suivant.